La fracture de l'Europe avec Chantal Delsol et Jacques Rupnik. En 1989, le mur de Berlin est tombé et l'on a cru que les deux Europes, séparées par Yalta, allaient se rejoindre autour d'une adhésion commune à l'économie de marché et à la démocratie. Nous sommes en 2018 et malgré l'élargissement de l'Union européenne, rien ne va plus. L'euphorie s'est dissipée, la question des migrants fracture à nouveau le vieux continent et la dérive illibérale de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovaquie, suscite de très fortes inquiétudes dans les autres pays de l'Union. Que se passe-t-il? Les nations d'Europe centrale sont-elles en proie à une vague de nationalisme antidémocratique? Et si oui, quelles sont les raisons d'un tel phénomène? Pour répondre à ces questions cruciales, j'ai invité la philosophe Chantal Delsol et Jacques Rupnik, qui a été conseiller du président Havel et qui est directeur de recherche au CERI. Je voudrais, pour commencer, inverser la perspective et demander à mes invités quel regard portent sur nous les sociétés dont l'évolution nous préoccupe tant. Chantal Delsol.
Je pense qu'il y a un problème depuis longtemps. C'est pas uniquement depuis quelque temps avec le développement du gouvernement Orban, etc. Ce sont des sociétés qui nous ont rejoints après un très grand moment de... Je dirais de blanc, c'est un peu comme un soldat qui rentre à la maison après 50 ans de guerre. Il ne sait pas ce qui s'est passé à la maison. Et au fond, tout le moment de la postmodernité, on peut appeler ça comme ça, ils ne l'ont pas connu. Donc, ce sont des pays qui sont plus conservateurs que nous, plus religieux certainement, et qui, dès le départ, ne nous comprennent pas bien. Mais aujourd'hui, je voudrais simplement donner l'exemple de la question de l'immigration pour nous mettre carrément dans le bain. Au fond, ce sont des gens qui, dans l'ensemble, nous traitent d'idéologues, nous prennent pour des idéologues, c'est-à-dire des gens qui développent une idéologie mondialiste, universaliste, pour le dire vite. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de textes aujourd'hui que Jacques Rupnik doit connaître mieux que moi, probablement, qui nous comparent, au fond, avec les soviets, ce qui est quand même assez pénible pour nous. Et je donnerai l'exemple de l'immigration. Pour nous, l'immigration, le problème de l'immigration, c'est un drame. C'est-à-dire qu'il y a une valeur fondamentale, la solidarité, c'est évident. Et donc, il faut la pousser au maximum. Donc, un drame, c'est ça. Nous savons où est la valeur. C'est très difficile d'y aller. Il faut du courage, mais allons-y. C'est Merkel.
Wir schaffen das.
Voilà. Ça. Et tandis qu'au fond, pour eux, et moi je pense que là, sur ce point, ils ont plutôt raison, le problème d'immigration, c'est pas un drame, c'est une tragédie. C'est-à-dire qu'il y a deux valeurs qui se confrontent, à savoir la question de la sauvegarde d'une société, c'est-à-dire nous n'avons pas envie que nos femmes ne puissent plus rentrer dans les bistrots. Voilà, c'est ça la sauvegarde d'une société, c'est une valeur. Hein. Et la deuxième valeur, c'est évidemment la solidarité. Mais la tragédie, c'est un combat entre deux valeurs affamées. Voilà. Et donc, il faut tenir et prendre en compte les deux valeurs. Donc, ils nous considèrent, nous, comme des idéologues, parce que nous prenons en compte une seule valeur et nous considérons que tout ça, c'est en fait, c'est un problème qui attend une solution.
Alors, quand vous dites « il », vous pensez qu'il y a un large consensus dans les sociétés dont nous parlons ou qu'elles sont aussi divisées autour de cette question,
Jean-Pierre? Bien sûr qu'elles sont divisées. Elles sont divisées. Un large consensus, je ne crois pas non plus. Mais il y a un courant fort. C'est parce qu'il y a un courant fort que ça se traduit par les démocraties libérales dont nous parlons.
Alors d'ailleurs, dans un article de Figaro que vous avez écrit récemment, vous avez cette phrase. Les Occidentaux regardent l'Est et disent... Ces gens sont des attardés. Les sociétés d'Europe centrale regardent l'Ouest et disent « ces gens sont des suicidaires ». Ouais. Voilà exactement. Bon. Jacques Rupnik.
Alors, je commencerai par rappeler que quand même, dans la période avant 89 et après 89, l'Europe était un aimant. C'est ce qui attirait l'Europe centrale. Donc, lorsque les Européens du centre et de l'Est, en 89, se projettent, c'était au nom du retour en Europe. C'est ça le slogan de la révolution de velours à Prague. Et toute la période qui a suivi a été marquée par une sorte de consensus pro-européen. Toutes les réformes économique, les nouvelles institutions qui ont été construites, tout le projet, disons, de la démocratie post-89 a été, j'allais dire, mené sous l'égide d'un projet européen, d'une certaine idée de l'Europe. Alors, et c'est là où les choses se sont compliquées, c'est qu'au cours de la dernière décennie, ce consensus a éclaté. Il a éclaté dans les pays en question. On a eu un retour très fort de courants nationalistes qu'on qualifie maintenant de populistes et en tout cas très réservés, sinon ouvertement eurosceptiques. Et donc là, on a une différenciation dans les pays en question et on a une confrontation avec l'Europe. Ça, c'est quand même un retournement spectaculaire quand on pense que Viktor Orban lance une campagne à Budapest avec des panneaux où il y a écrit « Stop Bruxelles ». Arrêter l'Europe. Donc, pendant 20 ans, vous avez comme projet d'adhérer à un club. Et une fois que vous êtes dedans, vous le considérez comme une menace. Donc, l'Europe, c'était une identité qu'ils souhaitaient affirmer par leur adhésion à l'Union européenne. Elle est perçue aujourd'hui comme, je vais presque dire, une menace ou en tout cas un facteur d'insécurité. Et c'est ça le retournement le plus spectaculaire dans leur regard à l'Europe. Alors ensuite, il faudrait différencier parce que il y a les gouvernements qui ont un discours souvent assez virulemment eurosceptique et en même temps des populations qui sont plutôt favorables à l'Europe. Regardez la population polonaise, t'as 70% confiance dans l'Union européenne. Bien sûr, donc bien sûr. Le même gouvernement qui attaque l'Union européenne et la population qui en tout cas ne voudrait en aucun cas remettre en question son appartenance à l'Union européenne.
Alors, vous dites, Jacques Lupnik, qu'on assiste aujourd'hui dans ces pays-là tournés vers l'Europe dans les années 70-80, un retour du nationalisme. Mais là, je voudrais vous citer un texte que vous connaissez très bien tous les deux, c'est l'article de Kundera, Un Occident kidnappé, la tragédie d'Europe centrale, un article qui m'a beaucoup frappé et que j'ai sans cesse ouvert devant moi. Vous savez très bien qu'il commence par une anecdote terrible, en 56, le directeur de l'agence de presse en Hongrie, quelques minutes avant que son bureau fût écrasé par l'artillerie, a envoyé par Telex une dépêche qui finit par ces mots « Nous mourons pour la Hongrie ». Et pour l'Europe. Il s'interroge sur la signification de ce terme et il dit « Nous mourrons pour que la Hongrie reste Hongrie et que l'Europe reste Europe ». Et ça, c'est une chose qui n'était pas comprise, qui ne pouvait pas être comprise dans l'Europe post-nationale. Et cet article est très intéressant parce que Kundera emploie le terme d'identité, l'identité nationale, l'occidentalité comme identité, terme évidemment honni dans l'Europe post-hitlérienne qui se voulait absolument post-identitaire. Et Kundera disait, oui, il y a un affrontement entre totalitarisme et démocratie, mais il y a aussi un affrontement entre une certaine identité nationale et européenne et l'empire russo-soviétique. Donc, peut-être le malentendu est-il initial. Peut-être que dès le départ, les deux Europes voyaient la réalité autrement. Une Europe qui voulait se détacher de l'histoire et de son histoire, puisque celle-ci venait mener à la catastrophe, donc Ulrich Beck définissait la formule de l'Europe ainsi, vacuité substantielle, tolérance radicale, nous n'avons pas d'être substantiel parce que ça nous entraînerait dans l'engrenage de l'exclusion, de la distinction entre un « eux » et un « nous », et une Europe centrale qui était heureuse de rentrer à la maison, mais précisément parce que c'était une maison avec une identité, très, très affirmée. Et peut-être que le malentendu éclate aujourd'hui, Chantal Delsol.
Je pense que c'était pas la même Europe qu'il voyait que nous. Enfin, il n'imaginait pas à ce moment-là, me semble-t-il, où nous étions en train d'aller, c'est-à-dire vers une Europe finalement qui se détachait entièrement de ses racines. Enfin, il suffit de regarder la Maison de l'Histoire européenne qui a une exposition permanente à Bruxelles. C'est un musée qui a été créé par le Parlement européen. L'histoire de l'Europe commence en 1848. Et tout est décrit comme une montée vers une unité générale sans aucune aspérité. Et pour eux, c'était pas du tout pareil. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Je vous ai apporté une image que je vais décrire juste rapidement pour les auditeurs. C'est une statue monumentale qui a été faite et exposée au Luxembourg par une artiste croate, Ivekovic. C'est une femme enceinte, je dirais 7 mois, avec un peu d'habitude, et qui porte une couronne de laurier et qui veut la poser sur le front de quelqu'un qui n'est pas là. Et ça s'appelle la mémoire. La mémoire est enceinte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la mémoire est enceinte? Ça veut dire qu'elle est lourde et ça veut dire que la mémoire est une matrice. Voilà, voilà l'image que se font ces pays de la mémoire. À quel point c'est important? Pour nous, c'est pas du tout pareil. L'histoire, elle est pratiquement, elle est biffée. L'histoire, c'est la grande noirceur des Canadiens, vous voyez. Donc, ils aiment l'Europe, mais c'est pas la même Europe que la nôtre.
Oui, c'est ça. Donc, c'est le malentendu, c'est ça. Ouais. Ils veulent retrouver leur histoire et notre Europe veut sortir de son histoire et de l'histoire. Est-ce qu'il n'y a pas ça, Jacques-Nic?
Il y a en partie cela. Vous venez de mentionner 1848 et effectivement, on peut comparer 89 à 1848. Hein, on pourrait appeler ça l'automne des peuples, 89. Et 48, c'était quoi? C'était la démocratie, la nation, et il y avait l'idée que on participait quand même d'un grand, une grande remise en cause de l'ordre européen. Et 89 avait de cela. Donc il y a l'affirmation de du retour de la démocratie, la souveraineté du peuple, mais il y a aussi le retour de la nation après la guerre et 45 ans sous le communisme, bien entendu. Les premières choses, c'est de retrouver sa souveraineté nationale. Donc en ce sens-là, il y avait effectivement le décalage. Mais dans le moment post-89, cela n'était pas en contradiction avec le projet européen, puisque au contraire, oui, c'était le retour en Europe. Et il y avait cette idée que la meilleure façon de garantir cet avenir démocratique et indépendant de la nation était au sein de l'Europe. Je crois que il y a un retour de manivelle depuis une dizaine d'années sur des questions qui ont trait en partie à un décalage sur les perceptions de l'histoire. Ça, c'est vrai. Il le répète sans cesse. Vous n'avez pas compris ce qu'était notre histoire, le communisme. Nous avons vécu deux histoires différentes. Donc, il y a ça. Pendant que vous aviez la prospérité, la démocratie sous l'égide, sous la garantie américaine, nous étions en quelque sorte les nations opprimées. Vous n'avez pas pris la pleine mesure de cela. Et ils invoquent cette histoire meurtrie et difficile. Il propose en même temps des interprétations de l'histoire qui sont parfois singulières et préoccupantes. Vous avez à Budapest, n'est-ce pas, un monument qui est assez frappant, qui date de 2014, dont c'est récent, sous l'égide du gouvernement Orban, et c'est l'archange Gabriel qui est dévoré par l'aigle allemand. La Hongrie comme la victime, n'est-ce pas, de la guerre. Oui, alors ça, c'est une lecture de l'histoire, mais il y a aussi d'autres, y compris des historiens hongrois, qui disent, mais alors que faire du fait que la Hongrie a été le dernier allié d'Hitler, qu'elle a aussi, c'est là que la plus grande déportation des Juifs a eu lieu, et nous avons récemment en Pologne, là aussi, des débats sur la façon correcte ou incorrecte d'interpréter l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, au point que le Parlement polonais en est à adopter une législation sur ce thème. Donc, vous n'avez pas compris notre souffrance sous le communisme, mais en même temps, on fournit une lecture de la Deuxième Guerre mondiale où, par exemple, l'extermination des Juifs en Hongrie ou, dans le cas plus récent, de la Pologne avec cette nouvelle loi qui interdit donc aux historiens de remettre en question, en quelque sorte, l'innocence des Polonais. Il ne s'agit pas de la Pologne en tant que telle. Si la loi s'était contentée de dire l'appellation camp de camp d'extermination polonais est inacceptable, et on comprend qu'elle est totalement inacceptable.
Mais la loi va plus loin.
Mais la loi va beaucoup plus loin, puisque toute personne qui remettrait en cause la participation de Polonais dans l'extermination des Juifs serait punie par la loi. Or, nous le savons par les travaux d'historiens étrangers, mais aussi polonais, que, justement, dans certains cas, il y a eu non seulement participation polonaise, et parfois, dans le contexte de la guerre, règlement de compte avec les minorités juives, dans le fameux livre de Jan Gross, Yed Vabne, est une illustration de cela. Donc, soudain, ce genre de livre serait aujourd'hui punissable.
Oui, alors, Jan Gross, il a écrit Les Voisins, en effet, il a exhumé le pogrom de Yed Vabne, qui a eu lieu en 1941 et qui a été commis par des Polonais sans aucune impulsion allemande. Et c'était une histoire terrible, qui a été d'ailleurs reprise admirablement par Anna Bikont, une journaliste de Gazeta, Le Crime et le Silence, parce qu'elle fait état de la discussion qu'a engendré le livre de Gross en Pologne, et c'est une expérience qui a duré plusieurs années. Donc la Pologne avait entamé un travail de mémoire tout à fait remarquable, et en effet, on se demande s'il n'est pas en train de brutalement s'arrêter, puisque la loi dont vous parlez, Jacques Rupnik, pénalise l'attribution à la nation ou à l'État polonais, en dépit des faits, l'attribution donc de crimes contre l'humanité. On ne peut pas parler de crimes contre l'humanité, et il y a eu aussi cette déclaration vraiment terrible du premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, à Munich. Il a dit ceci, il ne sera pas, pour rassurer, soi-disant, les opinions occidentales, il ne sera pas punissable, il ne sera pas vu comme criminel de dire qu'il y a eu des bourreaux polonais, tout comme il y a eu des bourreaux juifs, ou comme il y a eu des bourreaux russes, ou ukrainiens, ou allemands. Ce qui quand même va très loin. Et la question se pose, c'est-à-dire que cette Europe veut retrouver sa propre histoire, mais elle ne veut pas non plus s'interroger sur les aspects noirs de cette histoire, et un certain antisémitisme semble revenir en Pologne, comme en Hongrie. En tout cas, je vous pose la question, Chantal Dessol.
C'est un phénomène dangereux. De toute façon, c'est tout ce qui est... je préfère le mot illibéral plutôt que le mot populisme, parce que le populisme est une injure, donc... c'est pas la peine, personne ne veut l'endosser, donc il faut pas l'utiliser. Mais tout ce qui est illibéral est dangereux, forcément. Tout gouvernement qui commence à dire il y a des limites à la liberté, c'est un risque, naturellement. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de limite à la liberté. Nécessairement, il y en a, mais où sont-elles? Donc, forcément, il faut regarder ça, il faut vérifier. Alors, les lois mémorielles, vous savez, c'est le fait de tout régime plus ou moins autocratique. Et nous aussi, en France, nous avons des lois mémorielles. C'est pas mieux. C'est toujours un peu dangereux, les lois mémorielles. Je pense qu'il vaut mieux, laisser les historiens discuter plutôt que d'interdire de parler de ceci ou de cela.
Faurisson n'est pas un historien. On ne peut pas discuter avec les négationnistes.
Oui.
Parce qu'on discute à partir de faits et on discute... les interprétations des faits, disons, peuvent en effet peuvent se contredire, peuvent rivaliser. Mais si quelqu'un arrive en disant le génocide est une pure invention et c'est une invention propagée par les Juifs et par l'État d'Israël pour servir ses intérêts, on se dit, mais... quel pire exemple y a-t-il d'antisémitisme qu'une affirmation comme celle-là? C'est bien dire les Juifs ne sont pas morts, c'est bien pire que de dire mort aux Juifs.
On peut ne pas l'inviter aux émissions de radio, on peut ne pas lui donner de poste de professeur dans l'université, mais de là à décréter que telle ou telle opinion est interdite, c'est que ça se discute quand même. Ça
se discute. Ce qui me frappe, c'est que on pensait après 89, et moi j'étais de cet avis que l'Europe se divisait sur la mémoire du communisme, parce qu'il y a ceux qui l'avaient vécu, et il y a ceux qui l'avaient observé de loin, parfois d'ailleurs avec certaines sympathies et connivence. Donc je pensais, ça serait la chose difficile, deux mémoires différentes, et comment réconcilier ces deux mémoires différentes. Mais je pensais qu'au moins nous avions la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, ça, l'Europe était unie autour de ça. En quelque sorte, j'allais dire que lorsqu'il y a eu la commémoration de la libération du camp d'Auschwitz, voilà, sous l'égide comme ça d'un discours européen, l'Europe s'est détruite à ce moment-là, elle s'est reconstruite aujourd'hui. Et je pensais donc qu'autour de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait l'unité des mémoires. Pas du tout. Nous découvrons que les mémoires sont divisées sur la Deuxième Guerre mondiale elle-même. Et alors là, ça renvoie à toute une série d'épisodes très sensibles dans les pays d'Europe centrale, pour la Pologne, pour la Hongrie, pour la Slovaquie et pour la Roumanie, par exemple, etc. Donc il y a d'autres pays qui sont...
des phénomènes de collaboration très avancés dans chacun de ces pays.
Mais bien sûr, donc il y a eu... il y a ce phénomène-là, et en quelque sorte, la question juive comme révélateur de la question nationale, ça c'était le grand thème d'Istvan Bibo, dans la misère des petits États d'Europe de l'Est. Donc il a, dans son triptyque, il y a la question allemande, il y a la nation, la construction nationale des peuples d'Europe centrale, et il y a la question juive comme une sorte de révélateur de cette identité entre l'Europe et l'affirmation de soi-même. Et je pensais que cet épisode était surmonté, il ne l'est pas, dans le contexte actuel, et je crois que c'est ça, le retour du nationalisme, nous avions commencé par ça, le retour du nationalisme aujourd'hui, dans le contexte de la crise migratoire, a libéré une certaine parole, a réouvert des questions que l'on pensaient dépassées, elles ne le sont jamais, bien sûr, oui, les questions d'histoire. Et je crois que c'est dans ce contexte qu'il faut interpréter ce qui se passe aujourd'hui.
Et c'est la question des deux douleurs de l'Europe, le communisme et le nazisme. Et en effet, ces pays soumis au communisme n'interprètent pas le nazisme de la même manière et ils se voient comme des peuples victimes dans tous les cas. Et cette difficulté, vous le dites, Jacques Rupnik, n'est pas surmontée. Alors restons-en à cette question. On a parlé un peu de la Pologne, la Hongrie. Deux phénomènes sur lesquels j'ai besoin de vos lumières. D'abord le parti Jobbik. On me dit, c'est un parti qui est situé à la droite du parti de Orban. Il était ouvertement antisémite, un antisémitisme qui allait même jusque la condamnation absolue de l'État d'Israël, le soutien au Hamas, qui est quand même assez curieux. Aujourd'hui, on dit qu'il a changé, qu'il s'est recentré, il y a même des alliances locales, je crois, avec les socialistes. Est-ce que c'est vrai? Deuxième question sur la Hongrie, Soros, c'est-à-dire Georges Soros, le grand financier, philanthrope, et il est mis en cause très violemment par Orban. Est-ce que cette mise en cause relève de l'antisémitisme ou y a-t-il peut-être d'autres raisons? Parce que Soros, je le lis dans un article de Laure Mandeville du Figaro, a publié en septembre 2015 un article qui appelait l'Union européenne à accueillir chaque année 1 million de migrants. Et il est vrai que Soros pense que l'âge des nations est révolu et il est pour leur dissolution accélérée. Donc voilà, c'est ces deux questions que je voudrais vous poser à propos de la Hongrie. Et puis on reviendra aux migrants.
Alors, Jobbik, ça peut être très vite parce que c'est un parti d'extrême droite au départ, xénophobe, tout ce que vous avez dit, et même assez musclé. Hein, ils avaient comme ça des milices qui défilaient, bottés. Ils allaient, il y a quelques années, devant l'ambassade de Slovaquie, pour défendre la minorité hongroise en Slovaquie, etc. Donc, ils commencent à l'extrême droite. Et Orban, qui donc gouverne la Hongrie depuis 2010, se servait du Jobbik pour dire « Vous me critiquez, vous dites que je suis un nationaliste. Mais regardez, je suis un rempart contre les vrais nationalistes extrémistes que sont Jobbik. » Mais ensuite, il a découvert que finalement, surtout à nouveau dans le contexte de la crise migratoire, qu'il avait là un espace, des thèmes qu'il pouvait reprendre. Et en gros, il a battu le Jobbik sur son propre terrain. Et donc la campagne qui concerne les migrants, mais la campagne qui concerne Soros, parce qu'elle se recoupe, et toute une série d'autres thèmes, il a en quelque sorte dévalisé le magasin Jobbik. Ce qui fait que le Jobbik a non seulement changé de direction récemment, mais s'est recentré. Donc maintenant, ils essayent de se trouver une place. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer en France. Imaginez le Front National, soudain, essayant de devenir un parti de centre-droit ou quelque chose comme ça. Bon, ça serait assez difficile.
Mais en Italie, c'est arrivé, hein, avec les néo-fascistes.
Qui étaient devenus des gens tout à fait...
Et donc,
le Jobbik, surtout dans le contexte où l'opposition hongroise est très affaiblie, cherche des partenaires. Et donc, il y avait l'idée qu'on pourrait faire, et même la philosophe Agnès Heller, disciple de Lukács, voilà la grande philosophe, l'une des dernières figures de cette génération-là, disait « pour ces élections, il faudrait en fait une opposition unie, y compris le Jobbik, pourquoi pas ?» Donc là, nous avions une situation nouvelle, c'est-à-dire la faiblesse extrême de l'opposition hongroise, sa fragmentation, incitait donc, selon certains, à faire une coalition, y compris avec le Jobbik. Bon, ça n'a pas eu lieu, l'opposition est allée en ordre dispersé, et le résultat était là, elle a été écrabouillée. Le Jobbik fait quand même 19%, parce que ses électeurs n'ont pas tout à fait pris la mesure du recentrage de leur parti. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc le Jobbik avait pour thème l'immigration et l'antisémitisme. Or, Soros est... bien entendu, maintenant devenu la bête noire du gouvernement Orban. Vous ne pouvez pas aller à Budapest, vous voyez partout les affiches. Soros, il est partout. Et entre autres, la plus parlante, c'est Soros sur une affiche, entouré de leaders de l'opposition, avec des pinces et la légende qui dit « Ensemble, nous allons démanteler la clôture que Orban a construite en 2015 ». Donc, le thème, voilà. Soros, c'est l'homme qui préconise l'invasion. En gros, la dissolution, le grand remplacement, c'est Soros. Deuxièmement, Soros, c'est les valeurs libérales. C'est lui qui nous a implanté l'université centre-européenne ici. C'est lui qui la finance. Et qu'est-ce que l'université centre-européenne ? C'est un carteron de libéraux. C'est en fait un bastion intellectuel de l'opposition. Et donc, nous devons mettre au pas cette université, et il y a un bras de fer en ce moment entre le gouvernement hongrois, le ministère de l'Éducation, ils ont adopté une nouvelle loi, et il est fort probable que cette université devra fermer. Enfin, ah oui. On verra, peut-être que le gouvernement, maintenant, se sent-il suffisamment fort, il a une majorité...
Est-ce qu'il y a une dimension antisémite dans cette focalisation sur Soros, ou non?
Ah ben bien sûr, parce que le discours d'Orban, c'est quand même de dire « Notre pays est menacé ». Je cite approximativement, mais c'est presque ça. Notre pays est menacé par un réseau contrôlé par Soros, inspiré par Soros. Un réseau sournois, parce qu'il ne s'affiche pas clairement. Et c'est le côté, réseau sournois. Vous avez là les mots clés. Soutenu par Soros. Et son but, c'est dissoudre la nation hongroise et nous imposer des valeurs. Et donc, ça, la campagne anti-Soros, tout le monde sait que c'est Soros, financier d'origine hongroise, juif, Wall Street. Vous avez là la configuration parfaite, disons, la théorie du complot.
Oui, je voulais dire, à propos de la mémoire, pour faire suite à ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que c'est dans ces pays, il y a eu une incompréhension, voire même une révolte, de voir à quel point nous voulons bien, oui, la mémoire du nazisme, et bien sûr, abondamment, et c'est très bien, mais la mémoire du communisme, non. Et de voir à quel point il y a une différenciation ici entre ces deux totalitarismes. Et ça, je pense que pour eux, ça a été quelque chose d'absolument insultant. J'ai assisté j'ai participé à beaucoup de colloques dans ces pays sur justement la mémoire des deux totalitarismes. Et au fond, pas l'identité, mais l'analogie des deux totalitarismes, et justement pas l'identité, parce que le communisme a été très long. Et quand on vit quelque chose de tel sur la durée très longue, c'est pas pareil que quand on le vit sur une durée de 10 ou 12 ans. Il ne se passe pas les mêmes choses dans la tête des gens. Mais je pense que pour eux, ça a été une vraie révolte de voir que la mémoire du communisme n'était pas acceptée au fond.
Amnésie d'un côté, hyper-amnésie de
exactement,
l'autre. Ça.
Exactement. Oui. Et ça, pour eux, je crois que ça a été très très dur, parce que le communisme, c'était quand même pour eux un totalitarisme vécu.
Oui, en effet. Vous disiez tout à l'heure, Jacques Rupnik, que des années 70 aux années 2000, l'Europe occidentale a été un modèle pour l'Europe centrale. Il me semble que c'est en train de changer aujourd'hui. Vous avez expliqué pourquoi. On a des informations assez lacunaires sur ce qui se passe, puisque chez les journalistes français, on peut dire que la réprobation préempte la description. Mais cela étant, on peut entrevoir des choses. Et un citoyen hongrois a été interviewé et il expliquait qu'il était allé à Paris, parce qu'il voyage beaucoup maintenant, le mur s'étant effondré, et il a dit « mais je ne veux absolument pas de ça, de cette société multiculturelle qui saute aux yeux pour mon propre pays ». Et vous m'avez dit, Jacques Rupnik, un jour, alors j'espère que c'est pas ma mémoire, c'est pas dans un rêve, mais je crois pas que ce soit dans un rêve, vous m'avez dit qu'un conseiller ou un collaborateur de Václav Havel vous avait fait cette confidence. Je ne veux pas que Brno, c'est la deuxième ville de la République tchèque, devienne la Marseille de l'Europe centrale. Ce qui veut dire que cette inquiétude et ce refus d'un avenir multiculturel dépasse le cadre strict du nationalisme buté et inquiétant dont nous avons parlé tout à l'heure. Est-ce vrai, Jacques Rupnik ?
Oui, d'abord, votre mémoire, alors là, puisqu'on est dans les questions mémorielles, votre mémoire ne flanche pas, elle est tout à fait exacte. C'est vrai que c'est une observation. Je voulais mentionner pour dire, c'est pas seulement un carteron de nationalistes aigris qui tiennent ces propos. Donc, il y a beaucoup de gens qui considèrent, à tort ou raison, mais il est important que les Français entendent ça, qui considèrent que le modèle de société tel qu'il s'est développé au cours d'un demi-siècle en Occident est un modèle qui les inquiète passablement. Toute la question de l'intégration, du multiculturalisme, et ça les inquiète. Et il y a un phénomène de rejet assez... Pourquoi rejettent-ils les quotas de migrants? Parce que c'est finalement ça la question. Lorsque l'Union européenne propose de répartir les migrants par quotas, on pourrait se dire, mais, et moi je l'aurais dit souvent d'ailleurs dans des débats que je fais là-bas, j'ai souvent dit, mais pourquoi ne pas prendre 1000, 2000, enfin selon le quota, dans un pays de 10 millions d'habitants comme la République tchèque ou la Hongrie, c'est à peu près le même taille, c'est pas grand-chose. Non, pour eux c'est une question de principe, parce que ce que vous essayez, à travers les quotas, de nous imposer un modèle de société qui a échoué chez vous. Et donc c'est là où il y a une divergence, là, puisque nous sommes sur l'étude des perceptions contrastées ou des divergences. Il y a une divergence sur cette question du multiculturalisme. On peut essayer de l'expliquer par la façon dont les nations centre-européennes se sont construites, par la culture, la langue, parfois la filiation religieuse. C'était des nations sans État, et donc elles se sont construites par l'identité culturelle. Et lorsqu'elles ont accédé à un État indépendant, d'ailleurs ça n'a pas duré longtemps, bon, il y avait la difficulté à, en quelque sorte, à passer à un autre modèle de la nation. Et les Français ont du mal à comprendre ça, parce que pour les Français, c'est voilà, le principe républicain, la nation civique. Donc il y a un État qui construit une nation, et ils sont tous citoyens. Et donc on a une autre conception de la nation. Mais on a beaucoup de mal à comprendre ceux qui n'ont pas connu ce parcours français. Donc la lecture française nous empêche de voir ce qui se passe là-bas, ce qui ne veut pas dire que leur perception catastrophiste de ce qui se passe en Occident est la bonne. Je dirais qu'elle s'inscrit dans un rejet plus général de ce que l'Union européenne représente maintenant pour eux, c'est-à-dire pas le libéralisme politique seulement. Ça, c'est un grand point de divergence, bien sûr. Est-Ouest, et on voit que la Pologne, la Hongrie sont aujourd'hui dans le collimateur des institutions européennes oui. sur la question du libéralisme politique. On peut y revenir. Mais là, je parle du libéralisme sociétal, c'est-à-dire l'évolution des sociétés occidentales, et ils associent l'Europe occidentale, en gros, à ce modèle qui va du mariage gay, l'avortement, enfin, il y a beaucoup de questions, et le multiculturalisme fait partie, donc, d'un ensemble de questions sociétales où l'Europe libérale, pense-t-il, est à la dérive, et eux se présentent comme les derniers défenseurs d'une Europe conservatrice. Moi, j'ai eu cette conversation récemment à Budapest avec une personne proche de la direction du Fidesz qui m'a dit « Mais nous sommes les derniers conservateurs. Regardez, même la CDU allemande a adopté le mariage gay. Ils ne croient plus à la famille, ils ne croient plus à la nation puisqu'ils croient à l'Europe et ils abandonnent en quelque sorte les valeurs chrétiennes. Et nous les défendons, la famille, la nation et les valeurs chrétiennes. » Et donc, là-dessus, il y a une division comme j'ai dit, sur la politique, mais aussi sur, en quelque sorte, les questions sociétales.
Chantal Delsol.
Oui, je ressens exactement la même chose que vous. J'ai un souvenir très précis du moment où la Roumanie était rentrée dans le Conseil de l'Europe. Je me trouvais à Bucarest ce jour-là. Il y avait affiché sur toutes les petites chapelles qui sont restées, que chez ce qu'on n'a pas eu le temps de détruire, nous voulons bien rentrer dans l'Europe, mais pas dans Sodome. Parce que pour eux, le simple fait de leur demander de respecter les homosexuels, en tout cas à cette époque, c'est déjà il y a 15 ans, c'était quasiment insupportable. On voit effectivement un courant conservateur qui est énormément plus fort que chez nous.
On peut être conservateur sans être homophobe.
Alors, voilà, c'est ce que j'espère. C'est ce que j'espère quand même. Mais non, mais c'est pour vous montrer qu'il y a tout de suite. Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que tous les auteurs de ces régions-là, je citerai parler de ceux qui sont vos plus proches, Havel ou Kundera, ont tous écrit, quand ils sont arrivés chez nous après la chute du mur, des textes pour dire nous ne voulons pas de cette société. Hein. Nous ne voulons pas de la société communiste, mais nous ne voulons pas non plus rentrer dans une société telle que la vôtre. C'est d'ailleurs exactement ce que disait Solzhenitsyn quand il est arrivé en Suisse, au début de son exil. Je ne voudrais pas donner votre société en modèle à la mienne. Donc c'est tout à fait clair. Et donc il y a vraiment une discussion entre modèles de société. Et ça serait pas mal que nous on en tienne compte plutôt que de les injurier, voyez. Alors je voudrais simplement ajouter à propos de la répartition des migrants. J'ai parlé tout à l'heure d'une question tragique et je pense qu'effectivement la question des migrants est une question tragique parce qu'il y a deux valeurs en lice. Et quand une question tragique se pose, ça peut être sur le plan personnel quand il s'agit de débrancher un mourant ou de pratiquer une IVG, ce sont des questions tragiques personnelles. À ce moment-là, c'est la conscience qui décide. Et on n'a pas le droit de venir de l'extérieur et de dire « tu dois faire ça ». Et je pense que pour eux, c'est ça qui les affole. C'est qu'ils voient une instance extérieure, à savoir Bruxelles, qui vient et qui leur dit « vous devez en prendre tant ». Eh bien non. Parce que c'est une question tragique et par conséquent, c'est notre conscience de peuple qui doit décider de ce que nous allons faire. Voilà.
C'est une question tragique, mais voilà. Il y a aussi une question politique qui est celle de la souveraineté. Ils viennent de la reconquérir.
Ça va ensemble.
Et la souveraineté, c'est quand même de décider soi-même
surtout,
si on admet et qu'on n'admet pas.
Surtout
et on n'aime pas que la décision
tragique,
vienne d'ailleurs.
Surtout quand la question est tragique.
En plus, quand la question est tragique, absolument.
Je crois que ça, c'est très important.
Alors, le ministre polonais des Affaires étrangères, pour différencier les Europes, a dit les choses d'une manière assez brutale. Et il dit que le libéralisme européen, c'est un nouveau cocktail de culture et de race, un monde de cyclistes et de végétariens, ne jurant que par les énergies renouvelables et luttant contre toute forme de religion.
Ouais,
c'est une manière de,
assez
drôle de marquer la différence. Mais alors, nous avons cité ensemble Kundera, et là je voudrais vous faire part de mon étonnement, parce que Kundera disait le communisme c'était aussi l'emprise russo-soviétique, donc c'était un choc de civilisation d'une certaine manière. Or je vois aujourd'hui que Poutine est populaire dans certains pays d'Europe centrale, oui. Orban se réfère à Poutine, je crois, mais aussi, et là je me tourne vers vous, Jacques Coptic, parce que ça a été pour moi un sujet de stupeur, le président de la République tchèque, qui a été réélu tout récemment. Alors comment expliquer cette soudaine popularité de la Russie, qui certes n'est plus soviétique, mais qui, semble-t-il, n'a pas complètement renoncé à certaines ambitions impériales, qui ne se résigne pas du tout, comme en témoigne la question ukrainienne, à être une nation comme les autres, Jacques Coptic.
Je crois que, d'abord, il y a, alors là, ils sont divisés parce que, évidemment, l'attitude polonaise vis-à-vis de Poutine,
oui.
elle n'est pas du tout celle de Orban et la Hongrie. Donc, ils sont très proches sur les autres sujets, hein, la démocratie non libérale, contre les remontrances européennes, sur la question migratoire, tout ce que vous voudrez. Par contre, ils sont en divergence totale sur la Russie. Les Polonais considérant la Russie comme la menace numéro un et la Hongrie, au contraire, ayant une attitude plutôt indulgente sur l'annexion de la Crimée et en ce moment, se laissant par exemple financer une centrale nucléaire par la Russie. Mais surtout, la convergence se fait autour du thème que l'on vient d'aborder, c'est-à-dire l'idée que l'Europe occidentale est décadente. Elle est en train, voilà, de nous montrer non seulement son impuissance, elle est impuissante, une chose, et elle est décadente par les questions sociétales, les questions de mœurs, etc. Et donc, il y a une convergence autour de ce thème-là, de la décadence européenne, de son impuissance. Et ce qui impose, bien entendu, à certains en Europe centrale, c'est le volontarisme, c'est la capacité d'agir. Et bien sûr, Poutine, à sa façon, incarne cette force, la fascination par la force. Je crois qu'il y a un élément de cela. Je dirais et alors pour ce qui est du président tchèque, effectivement, ce n'est pas du tout l'humeur du pays dans son ensemble. Mais lui, à titre quand même, il est entouré de gens qui sont plutôt favorables à la politique du Kremlin. Il a lui aussi plaidé pour une sorte d'indulgence ou compréhension. Vous comprenez que l'Ukraine, finalement, c'est la sphère d'influence de la Russie, et vous devez aussi comprendre qu'il y a deux Ukraines. Et bref, et il a tout un argumentaire qui plaide contre les sanctions européennes vis-à-vis de la Russie. Le premier ministre slovaque qui vient de démissionner, Fico, était lui aussi contre. Le premier ministre tchèque, Babiš, était contre. Babiš disait ces sanctions, c'est se tirer une balle dans le pied, etc. Bref, à des degrés divers, il plaide l'indulgence vis-à-vis de la Russie. Et je crois que ça nous montre une Europe centrale, alors, tiraillée entre le pôle occidental et la Russie. Le grand choix de l'Europe centrale, il concerne les institutions, la démocratie, il concerne les questions de société dont nous avons parlé, mais il y a aussi les questions de sécurité et, disons, géopolitique. Et je dirais en quelque sorte, ça c'est l'ultime garde-fou contre certaines dérives. Je pense que quand même les peuples d'Europe centrale, ayant vécu ce qu'ils ont vécu, étant situés là où ils sont situés, sans être dans la posture ouvertement anti-russe comme la Pologne, seront les limites à ne pas dépasser. L'Union européenne, comme l'OTAN, comme en gros la filiation occidentale, est une forme de protection, même si on a un ressentiment contre une tutelle peut-être jugée excessivement voilà intrusive.
Chantal Delsol, vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui,
je pense qu'effectivement, enfin, il y a une fureur des intellectuels de ces pays, notamment en Pologne, contre cette espèce tout d'un coup de complicité avec Poutine, si on peut dire des choses comme ça. Je pense que cette toute nouvelle attirance vers Poutine, c'est justement la démonstration qu'il y a là un combat idéologique qui passe avant le problème du combat national, hein, si j'ose dire, qui était quand même très important. Et ça nous montre bien que, au fond, il n'y a pas de guerre de civilisation, mais il y a un conflit des paradigmes. Je pense. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez la religion humanitaire, appelons ça comme ça, ou l'éthos humanitaire dans lequel nous sommes, nous, en Europe occidentale, et puis aussi en Amérique du Nord. Enfin, sauf que maintenant, c'est Trump qui...
Oui.
Et puis, en face, vous avez une sorte d'idée de l'enracinement conservatrice, et dans lequel vous aurez Trump, Poutine, et puis aussi la Chine, et puis aussi l'islam fondamentaliste. Il y a véritablement, je pense, un conflit des paradigmes actuellement.
Alors, justement, ce paradigme conduit un certain nombre de ces pays à faire le choix, vous l'avez dit l'un et l'autre, de la démocratie libérale. Et là, je voudrais revenir une seconde à István Bibó, qui apporte comme une sorte de complément ou de nuance au texte de Kundera que j'ai cité tout à l'heure. C'est un livre beaucoup plus ancien, « Misère des petits États d'Europe de l'Est ». Mais il dit ceci, que effectivement, pour les pays d'Europe occidentale, parler de la mort de la nation, de son anéantissement, n'avait aucun sens. Alors que pour les pays d'Europe centrale, c'était une réalité tangible.
Bien sûr.
Mais, justement, il dit que la conclusion, c'est que dans les pays d'Europe centrale, la cause de la nation, si chère, s'est séparée de la cause de la liberté. On n'a pas su vouloir ensemble l'indépendance de la nation et l'indépendance de la liberté. Alors, est-ce la même chose, est-ce ce phénomène qui se reproduit à nouveau? Et qu'est-ce que ça veut dire, illibéral? Est-ce que ça veut dire vraiment que les libertés individuelles sont menacées aujourd'hui dans ces pays-là? Quel sens donner à ce terme, Jacques Rupnik?
Je pense qu'effectivement, il y a une dérive illibérale au sens de remise en cause du constitutionnalisme, de l'état de droit, de l'indépendance de la justice, de l'indépendance des médias. Donc là, il y a une dérive autoritaire, mais qui se fait non pas contre la démocratie, mais au nom de la souveraineté du peuple, le peuple souverain. Donc c'est, on veut pas de contraintes constitutionnelles pour ne pas entraver l'expression de la volonté du peuple. Et il y a ce que Bibó dit de l'autre côté. Et il y a cette tension en Europe centrale entre la liberté de la nation et la liberté d'individu. Et il ne faut surtout pas, disait Bibó, que les deux entrent en conflit, que la cause de la nation s'oppose à la cause de la liberté. Ça, dans ces cas-là,
on choisit la nation
et on va vers, c'est la fin de la démocratie, on va vers le fascisme, parce que Bibó écrivait oui. Pendant la guerre, bien entendu. Donc on va vers le fascisme. Donc même si on n'est pas obligé de poursuivre le pronostic jusqu'à ce point-là, ça c'est le vieux dilemme de l'Europe centrale, justement, des nations sans État, et des nations dont la survie n'est pas assurée. Il faut aussi prendre en compte que c'est des petites nations dont les frontières ont beaucoup bougé, qui sont en train de se dépeupler depuis 25 ans.
Et une émigration très forte.
Une émigration massive. Regardez, il y a 2 millions de Polonais à l'extérieur. Oui, il y a 20% de Bulgares qui ont quitté le pays, à peu près autant de Roumains. Donc il y a à la fois une angoisse historique pour la survie de la nation, parce que certaines sont très petites, les Estoniens 1,5 million, oui, les Lettons 2 millions, les Slovènes 2 millions, Slovaques 5 millions. C'est des petites nations dont la survie n'est pas assurée. Et dans ce contexte-là, vous avez un exode de la population, donc vous avez un dépeuplement du pays, et vous avez la menace migratoire, et donc l'angoisse de l'arrivée des migrants est, j'allais dire, décuplée par cette question existentielle de la survie de la nation. Et du coup, on est prêt à accepter certaines entraves à la liberté individuelle,
au migratoire, mais justement, c'est-à-dire refus du raisonnement économique. On ne pense les immigrés peuvent remplacer une population manquante. Les hommes ne sont pas interchangeables, me semble-t-il. Ça, c'est un principe d'airain de la pensée en vigueur dans ces nations d'Europe centrale. Chantal Delsol.
Ce qui paraît, quand on voit Angela Merkel qui dit, mais attendez, c'est normal que nous accueillons 1 million de personnes puisque nous avons 1 million de postes dans nos entreprises. On lui répond, mais attendez, un homme, c'est pas seulement un poste de travail, c'est aussi une tête, une mémoire, des habitudes, une culture, etc. Enfin, ça paraît tellement évident, en l'occurrence, ce qui veut pas dire que la solidarité n'est pas importante, évidemment, c'est autre chose. Oui, quand vous parlez, quand on parle d'illibéral, ça signifie que la liberté a des limites comme toute chose. Et Montaigne disait, même la vertu a des limites. Donc, la liberté a des limites parce qu'elle se heurte à d'autres valeurs qui sont importantes aussi, et Jacques Krupnik l'a dit. Donc, je pense que là, on est bien d'accord. La liberté n'est pas la valeur suprême et unique. Voilà. Alors après, évidemment, pour lui poser des limites, il faut beaucoup discuter. Mais j'aurais voulu poser une question. Je ne sais pas si on aura le temps d'y répondre. Mais je sens venir, et à propos de tout ce que nous venons de dire, et je l'ai senti encore dans le discours d'Emmanuel Macron l'autre jour, je crois que c'était à Bruxelles ou à Strasbourg, je ne sais plus.
À Strasbourg.
Je sens venir une volonté quand même de notre part, c'est-à-dire de la part des pays occidentaux, de se débarrasser de tous ces pays là-bas. C'est-à-dire de faire une Europe à 6 ou à 7 ou à 8, je ne sais pas, mais en tout cas dans laquelle ils ne seront plus, hein. De créer un premier cercle de happy few. Alors j'aurais bien aimé savoir ce que Jacques Rupnik en pense, et je crains ce désir, cette tentation, je dirais.
Jacques Rupnik.
Deux choses. Oui, la démocratie illibérale est aujourd'hui un des clivages en Europe. Si vous avez des pays qui remettent en question l'état de droit, et c'est le cas en Pologne, si vous avez, vous remplacez 5 juges constitutionnels, vous commencez comme en Hongrie de dire que adopter une sorte de rétroactivité du droit. Vous avez donc une confrontation entre l'Union européenne et les principes sur lesquels elle est fondée, sont l'état de droit, et des pays qui la contestent, et la contestent au nom de la démocratie et d'une certaine conception de la démocratie. Kaczynski parle de ce corset, en quelque sorte. Il parle de l'impossibilisme légal.
Hein.
Il ne faut pas que la légalité nous entrave. Donc, vous avez donc deux conceptions de ce qu'est la démocratie, et c'est au sein de l'Union européenne, ça sape les fondements de l'Union européenne. Dans ce contexte...
Est-ce que ce n'est pas un prétexte aussi pour se débarrasser de pays
gênants et... Se débarrasser, c'est pas si facile. Ils sont dedans.
Oui.
Il faudrait pour pouvoir... Donc, tout le monde constate, après le Brexit surtout, qui a été salué en Europe centrale.
Bien sûr.
Le Brexit a été salué.
Oui, oui.
Et ben ça, c'est... Voilà, c'est la preuve que... Comme Trump a été salué. Vous savez que Orban, le lendemain de l'élection de Trump, Orban donne une interview au Daily Telegraph où il dit « La démocratie libérale est morte ». Quelle journée. Il répète 3 fois, il exulte, il est euphorique. Parce qu'il comprend que les deux bastions de la démocratie libérale, la Grande-Bretagne avec le Brexit et l'Amérique avec Trump, leur donnent raison. Vous nous pointez du doigt comme des attardés post-communistes est-européens qui n'ont pas compris ce qu'est la vraie démocratie. Mais en fait, nous étions l'avant-garde de quelque chose qui vient aujourd'hui. Donc nous sommes les vrais porteurs de l'avenir de l'Europe, et leur conclusion, c'est nous ne voulons pas détruire l'Europe qui nous rapporte
nous
beaucoup de bénéfices. Nous voulons changer l'Europe.
Oui.
Nous voulons une autre Europe. C'est autrefois Milan Kundera et ceux qui parlaient, Czeslaw Miloš, ceux qui parlaient d'une autre Europe avaient peut-être autre chose en vue.
Mais oui, mais quand même. Là, justement, Chantal, je vais me tourner vers vous parce que vous parlez de la mémoire, de la nécessité de l'enracinement, et tout d'un coup, on exulte à l'élection de Trump, qui est un homme complètement inculte. C'est une trivialité absolue, d'une ignorance abyssale. Donc on se dit, défendre la mémoire européenne et se reconnaître dans Trump, n'y a-t-il pas là un paradoxe douloureux?
Mais oui, écoutez, la plupart de mes amis américains néoconservateurs ont voté pour Trump, ce que j'ai trouvé complètement ahurissant de la part de gens cultivés. Disant que finalement, il n'avait personne d'autre de mieux pour défendre leur pour défendre leurs convictions, même s'ils considèrent bien sûr que le bonhomme est aussi peu attirant que possible. Je pense que c'est là le conflit des paradigmes que nous avons sous les yeux. C'est assez terrifiant de penser que Orban, qui est finalement qui au départ n'est pas un sale type ni un type, d'ailleurs il a été éduqué chez Soros, hein, dit des choses comme ça. Mais je pense que ça montre bien à quel point il y a une espèce de révolte même idéologique.
Qu'il faut entendre quand même.
Je pense qu'il faut entendre et avec laquelle il faut débattre plutôt que de l'injurier, parce qu'il n'y a rien de tel que d'injurier quelqu'un et puis après de s'asseoir en disant qu'on a tout dit. C'est pas possible, ça.
C'est la même conclusion que vous tirez.
Absolument. Pas d'anathème, pas d'exclusion. Il faut dialoguer. Il faut savoir que ces sociétés sont aussi divisées et qu'il y a des gouvernements qui sont là aujourd'hui, mais qui peuvent changer. Et que voilà, il y a une opinion publique qui est très pro-européenne. Et en Pologne et en Hongrie, un taux de confiance très fort.
C'est vrai.
Comment expliquer cette disparité entre l'opinion et les leaders, alors qu'ils sont régulièrement réélus avec une très confortable avance?
Je dirais deux explications. Une qui est triviale, parce que le pays profite énormément de l'Europe. Hein, quand vous avez un pays comme la Hongrie ou la Pologne, qui 4% du PNB vient d'Allemagne, les fonds régionaux, tout le monde en a profité. Donc il y a à la fois ça, on comprend l'avantage, mais je crois qu'il y a aussi autre chose. Quand la société ou l'opposition est faible vis-à-vis d'un pouvoir fort comme en Hongrie ou en Pologne aujourd'hui, l'Europe est perçue aussi par certains, une partie de l'opinion, comme un contrepoids, un garde-fou. Voilà, c'est une limite à ne pas dépasser.
Même pour ceux quelquefois qui ont voté pour ces gens.
Oui, mais surtout pour ceux qui n'ont pas voté. Donc ça fait une bonne partie de l'opinion qui considère l'Europe aussi comme une sorte de garde-fou qui nous assure qu'il n'y aura pas de Brexit et que le pays ne va pas dériver au-delà d'une certaine limite.
Bon, très bien. Merci beaucoup, Jacques Rupnik. Merci infiniment, Chantal Delsol. Alors, Jacques Rupnik, je voudrais dire que vous avez publié dans le dernier numéro de la revue Commentaire un article intitulé « Crise du libéralisme en Europe centrale ». Et Chantal Delsol, je voudrais signaler aussi le texte « La déclaration de Paris » publié aux éditions du CERF. Il est écrit par Philippe Benetton, Rémi Brague et vous-même. Et il a été signé par 9 grands intellectuels européens. Et je voudrais en lire un extrait du premier paragraphe. « Les paysages et les événements de l'Europe nous renvoient des significations propres qui n'appartiennent pas aux autres. Notre maison est un lieu où les objets nous sont familiers et dans laquelle nous nous reconnaissons, quelle que soit la distance qui nous en éloigne. L'Europe est notre civilisation, pour nous précieuse et irremplaçable. » C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Lidouine Caron. Dans un instant, Concordance des temps, de Jean-Noël Jeannonet.